Beaumarchais, un aventurier de la liberté. Par Éric Orsenna. Aujourd'hui, un combattant perpétuel.
Au Vietnam, les familles n'oublient jamais de s'exclamer à chaque naissance « Oh, comme il est laid ce nouveau-né, répugnant même, et comme il a l'air bête !» Il ne faut surtout pas que les divinités jalousent le tout-petit, la vie minuscule qui vient d'arriver. Rien n'est plus loin de Pierre Augustin que cette sagesse de la dissimulation. Trop fier et trop satisfait de ses réussites, il ne cesse de les afficher. Jusqu'alors, les dieux avaient pris plaisir à regarder grandir et séduire et s'enrichir cet horloger hissé jusqu'à la noblesse, cet homme aimé de la finance et adoré des femmes. Soudain, vers 1766, on ne sait pourquoi, les dieux prennent ombrage et le frappent à coups redoublés. La séquence mauvaise s'annonce par une illégalité durement puni par l'escroquerie d'un homme de paille. Le financier Paris, toujours à l'affût de bonnes affaires, recommande une opération. L'archevêque de Chinon veut rebâtir son palais qui menace ruine. Il décide de mettre en adjudication 1000 des 5000 hectares de la forêt voisine qu'il possède avec le roi. La vente des arbres pourrait rapporter gros. Beaumarchais décide de suivre le conseil et de créer une société forestière. Comme il n'a pas le droit, en tant que juge au tribunal des chasses, d'assurer une telle gestion, il confie l'affaire à un prête-nom, un dénommé Le Sueur, lequel, à peine installé, se déclare chez lui. « Vous voulez voir mon titre de propriété ? Le voici, en bonne et due forme, et signé devant notaire. Rembourser l'argent qui a permis l'achat de la fameuse forêt ? Mais pourquoi donc ? Ce papier ne prouve-t-il pas que j'en suis l'officiel et l'unique propriétaire ? On se demande comment notre héros, d'ordinaire si malin, a-t-il pu se montrer si naïf? Ce coûteux épisode n'est que la première des vagues d'une toute autre violence qui ne vont maintenant plus cesser de déferler. Pour se reposer de ses bévues forestières, Beaumarchais s'est mis à écrire une pièce de théâtre. Et ne doutant de rien, comme à son habitude, il ne cesse de clamer qu'il prépare un chef-d'œuvre. Et chacun, à Paris, d'attendre avec impatience cette Eugénie ou la vertu douloureuse. On sait de son auteur qu'il débute, mais qu'il est brillant et inventif. On va se régaler, comme le note Maurice Levers, avec un sourd regret que nous sommes nombreux à partager. Heureuse époque où théâtre et libertinage étaient les deux seules vraies passions parisiennes. La censure ayant approuvé le texte, la Comédie française commence les répétitions. Le grand soir arrive, 29 janvier 1767. En coulisses, l'auteur se meurt de trac, malgré sa confiance en lui congénitale. Une heure après, il aurait tout donné pour une mort véritable. Ça bâille dans la salle, et ça ricane, et ça commence à huer. Lorsque le rideau finit par tomber, et que se rallument les lumières, on se regarde consterné, et puis on se joint au mouvement, on se dresse, et on siffle. C'est si bon de se dégourdir quelque chose du corps après s'être tant fait braire. Un chroniqueur écrira « Je n'ai point encore vu d'auteur paraître pour la première fois contre lequel le public se soit aussi généralement déchaîné. » Un autre prédira « Écoutez, cet homme-là, qu'on dit d'une grande fatuité, ne fera jamais rien de bon, même de médiocre. » Les dieux, quant à eux, sont ravis. Merci la Comédie française. Ils ont pris vif plaisir au spectacle de cette dégringolade. Les dieux sont ravis, mais pas rassasiés. Ce premier assaut leur a donné le goût du sang. Ce Beaumarchais mérite d'autres coups. Il est vraiment trop réjouissant de bastonner un tel petit maître. Celui qui se croyait écrivain a reçu la leçon qu'il méritait. Maintenant, frappons l'homme. L'occasion ne tarde pas. Une veuve de belle allure, Geneviève Madeleine Wattebled, s'étant proposée gentiment de consoler le dramaturge, la noce est célébrée en avril 1768. En décembre, leur naît un fils, bonheur de Beaumarchais, en dépit d'un nouvel échec au théâtre, car sa pièce « Les deux amis » est rejetée encore plus vivement que son Eugénie. Qu'importe, il semblerait bien, contre toute attente, que l'époux goûte alors la vie conjugale, et même qu'il se découvre un certain penchant pour la fidélité. Toujours est-il que Geneviève Madeleine, de rechef, attend. Naît une fille qui ne va vivre que 3 jours. Sa mère la suivra peu après dans la tombe. Les enquêtes d'opinion le confirment. Il n'est pas agréable de perdre sa femme, surtout récente et semble-t-il aimée. Mais quelle pire situation que se faire soupçonner de son meurtre alors que vous avez pris d'elle un soin permanent durant tout le temps de sa maladie. Est-ce votre faute si votre première épouse s'était, elle aussi, trop rapidement éteinte? Ces douloureuses coïncidences font-elles de vous un assassin? Bientôt vous allez perdre aussi cet Augustin qu'elle vous avait donné, ce fils qui vous réjouissait tant. Des fièvres l'emportent. Les dieux, décidément, s'acharnent. Après avoir piétiné la vanité de Beaumarchais, après avoir dévasté son cœur, il s'attaque maintenant au nerf de sa guerre, en d'autres termes, à son argent. 1770, Paris du Vernet, 86 ans, approche du terme de sa vie. Depuis leur rencontre, une décennie plus tôt, ses affaires et celles de Beaumarchais s'étaient inextricablement liées. Énormément d'argent avait passé de l'un à l'autre, principalement du milliardaire vers l'horloger. Sans la moindre écriture, bien sûr. La confiance était-elle entre les deux? Pourquoi s'embarrasser de procédures? Et un financier d'une telle puissance, devant qui tout cède, comment peut-il s'imaginer fragile et mortel? 100 fois, Beaumarchais lui avait présenté des papiers reprenant les engagements de Paris, l'authentification de ses dons et ses remises de dettes. Et 100 fois, le vieil homme avait remis à plus tard. « Mais pourquoi tant de hâte? Vous me trouvez si faible? Vous voulez m'enterrer ?» Pendant ce temps, l'héritier officiel veillait. La fortune de Paris devait échoir au seul Joseph-Alexandre Falcoz, comte de la Blache, l'un de ses arrière-petits-neveux. Le 17 juillet, Paris finit par rendre son dernier soupir. Beaumarchais pleure. Chez lui, comme toujours, l'intérêt se mêle à l'affection et l'argent au sentiment. Il pleure son vieil ami, leur immédiate complicité, leurs aventures communes, et en même temps, il se chagrine fort pour l'avenir de ses affaires. Il perd son meilleur soutien et doit affronter un rapace, plus jeune que lui, aussi plein de morgue et de bien plus vieille noblesse. Un procès commence, il va durer 8 ans. Cette longue chicane n'aurait que peu d'intérêt pour nous si une grande œuvre n'était pas née de ces embrouilles, les Mémoires contre Gusman. Plus personne ne les lit aujourd'hui, ils furent pourtant, de tout le XVIIIe siècle, l'un des plus gros succès de librairie. Puisque dans cette affaire d'héritage, la cause privée se mue en affaire publique, un peu d'histoire s'impose. Revenons à 1770, décidément l'année clé. Le 24 décembre, Choiseul trouve au bas de son arbre de Noël sa lettre de renvoi. Le roi lui enjoint d'aller prendre quelque repos sur sa terre de Chanteloup près d'Amboise. Il était depuis 12 ans le premier des ministres, en charge plus particulièrement des affaires étrangères. Proche de la Pompadour, détestant la du Barry, il n'allait pas survivre au décès de la première et moins encore à la montée en puissance de la seconde. Il est vrai aussi que ses sympathies pour l'encyclopédie ne lui avaient pas fait que des amis à la cour. Un nouveau pouvoir s'installe à Versailles. Exit Choiseul, bienvenu Maupou, jusqu'alors garde des Sceaux. C'est un ennemi déclaré des parlements. Lesquels parlements sont 13? 13 répartis dans l'entièreté du royaume. Au nom du roi, il juge. Il juge en dernier ressort, et d'année en année, se montre de plus en plus turbulent, exerçant de plus en plus souvent leur droit de remontrance quand une décision du roi ne leur agrée pas, sans oublier de réclamer encore et encore la tenue d'états généraux qui ne se sont point réunis depuis 1618. En dépit de cette indépendance, qui pourrait lui sembler de bon aloi, Diderot ne les aime pas. Voici ce qu'il en dit. Intolérant, bigot, stupide, conservant ses usages gothiques et vandales, ardent de se mêler de tout, de religion, de gouvernement, de police, de finance, d'art et de science, et toujours brouillant tout d'après son ignorance, son intérêt et ses préjugés. À peine arrivé aux commandes, Maupou décide d'en finir avec ses nids d'agitateurs et de, comme on les appelle, de républicains. Les membres du Parlement de Paris sont arrêtés le 20 janvier 1771. En remplacement, une grande chambre est instituée. C'est d'elle que dépendra désormais l'issue finale du procès de Beaumarchais. Mais comment lui faire confiance à cette grande chambre? Cette chambre est bien sûr aux ordres de celui qui l'a créée, avec en ligne de mire les proches de Choiseul, parmi lesquels Beaumarchais, qui tremble, et il a raison. Louis-Valentin Gussmann, obscur juriste, était venu d'Alsace pour servir le duc d'Aiguillon, l'allié de Maupou dans sa conquête du pouvoir. En remerciement, il avait été nommé conseiller à la Grand Chambre. C'est lui qui est désigné comme rapporteur de l'affaire. Il doit rendre ses conclusions dans 4 jours, le 5 avril 1773, date décidée pour le jugement. Beaumarchais se rue au domicile du magistrat, quai Saint-Paul. Il trouve porte close. Il cherche les moyens de la faire ouvrir. On lui indique un ennemi Jean Leget, libraire, qui connaît Gabrielle, seconde épouse de Gussmann, jolie, légère, 30 ans de moins que son mari, dépensière. Cette Gabrielle ne serait pas insensible au cadeau. Contact est pris. « Si 4 800 livres me sont versées, dit-elle, j'arrange une audience. Accord conclu, grâce au libraire, merci à lui. » Beaumarchais repart en courant quai Saint-Paul. Il est reçu par le couple qui s'apprête à dîner. Gussmann écoute en ricanant la plaidoirie express de Beaumarchais. « Au revoir, monsieur. » Il est raccompagné par une servante. Fin de l'entretien. Durant les 48 heures qui suivent, Beaumarchais tente par tous les moyens de revoir le conseiller. Il lui a paru bien ignorant de la cause qu'il doit juger. Peine perdue et mauvaise nouvelle, Gabriel, via le libraire Leget, rend les 4 800 livres ainsi qu'une jolie montre sertie de diamants que notre ancien horloger avait galamment jointe au cadeau. Le 5 avril au soir, Gussmann remet son rapport, sur l'appui duquel la Grande Chambre rend son jugement sans motivation. Une première, sans précédent ni successeur, dans l'histoire de la justice de notre pays. Le fameux arrêté du compte des affaires entre Paris et Beaumarchais est déclaré nul. En conséquence, Beaumarchais est condamné à verser sur l'heure la somme de 56 300 livres augmentée des intérêts depuis 5 ans. Les huissiers sont lâchés, excités par la blâche. Beaumarchais voit saisir l'entièreté de ses biens et son vieux père est mis à la rue. « Je suis au bout de mon courage », écrit-il à son ami Sartine. Son découragement sera bref. Dès le lendemain, il prend la plume. Mémoire à consulter pour Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, écuyer, conseiller secrétaire du roi et lieutenant général des chasses au bailliage et capitainerie de la Varenne du Louvre, grande vénerie et fauconnerie de France, accusé. Je cite « Pendant que le public s'entretient d'un procès dont le fond et les détails excitent sa curiosité, pendant que des gazetiers vendus aux intérêts de différents partis le défigurent de toutes les manières, pendant que les méchants accumulent sur moi les plus absurdes calomnies et ne disputent que sur le choix des atrocités, enfin pendant que les honnêtes gens consternés gémissent sur la foule de mots dont un seul homme peut être à la fois assailli, laissons jaser l'oisiveté, dédaignons les libelles, plaignons les méchants, rendons grâce aux gens honnêtes et présentons ce mémoire à mes juges comme un hommage public de mon respect pour leur lumière et de ma confiance en leur intégrité. » Fin de citation. Le ton est donné, la charge lancée, sonne l'heure de la revanche. Si les dieux souffrent de jalousie, un autre plus haut mal les torture, c'est l'ennui. Comment voulez-vous qu'à la longue, les dieux ne se lassent pas devant le spectacle des agitations humaines, agitations si mornes, si répétitives et surtout si prévisibles? Lorsqu'un personnage hors du commun se présente, vous comprendrez que les dieux, après l'avoir durement éprouvé pour vérifier sa capacité de rebond, oui, vous comprendrez que ces dieux lui déroulent le tapis rouge et le comblent de toute leur complaisance. Et maintenant, amusez-nous, monsieur, vous avez quartier libre. Beaumarchais ne va pas les décevoir. Ses mémoires contre Gussmann paraissent en rafale. Le 5 septembre 1773, le 18 octobre, le 15 décembre, et pour faire bonne mesure, un dernier, le 10 février de l'année suivante. Figurez-vous qu'on va s'arracher ce feuilleton judiciaire. En 2 jours, 10 000 exemplaires sont vendus. Il faut dire que le rythme est vif, le trait acéré, les portraits délectables, les situations cocasses. Beaumarchais, qui n'a jamais rien écrit, hormis ses pochades pour égayer le château d'Étiole et ses 2 mauvaises pièces, Eugénie et les 2 amis, s'installe d'emblée au sommet, non loin de Diderot et tout près du maître Voltaire. Le but qu'il s'était fixé est atteint, suivre le chemin ouvert par les provinciales de Pascal, écoutez bien, répandre à pleine main le sel de la gaieté sur les discussions les plus sérieuses. Je redis, parce que c'est trop beau, répandre à pleine main le sel de la gaieté sur les discussions les plus sérieuses. Loin de moi l'idée de mépriser un ordre que le monde entier nous envie, cette catégorie particulière d'avocats qui n'exercent leur talent qu'auprès de la Cour de cassation et du Conseil d'État. Magistrat, 25 ans durant au sein de cette dernière institution, j'ai passé mon temps et le reste de ma jeunesse à m'épuiser les yeux dans leur mémoire. Que n'avait-il lu Beaumarchais? Pour égayer et pimenter leurs écrits futurs, et de ce fait moins assommer celles et ceux qui m'ont succédé au Palais-Royal, je me propose de confectionner un petit pot-pourri. Dès l'entame, et pour que nul n'en ignore, l'essentiel sera dit par Beaumarchais sur la justice. Je cite « Si c'est un malheur d'être engagé dans un procès dont le plus grand bien possible est qu'il n'en résulte aucun mal. » Fin de citation. Vous voulez un exemple de concision? Je reprends. C'est sur la main qui reçoit que le juge doit avoir l'œil ouvert, et non sur la main qui donne. La faute de celle-ci n'est qu'un accident éphémère et peu dangereux, au lieu que l'avidité toujours subsistante de celle-là peut multiplier le mal à l'infini. Fin de cette 2e citation. Craignez-vous d'employer la première personne, car on vous a dit et répété que le moi était haïssable? Mais ne vous en privez pas, je reprends la citation, moins obligé d'avoir du talent parce que j'ai du courage, la nécessité d'écrire contre un homme puissant est mon passeport auprès de mes lecteurs. Souhaitez-vous raconter, de manière enfin vivante, la confrontation entre deux plaideurs? Contentez-vous de suivre le modèle de Beaumarchais. Je le cite. Madame Gussmann, sommée d'articuler ses reproches contre moi, répondit. Écrivez que je récuse monsieur parce qu'il est mon ennemi capital et parce qu'il a une âme atroce connue pour telle dans tout Paris. Je trouvais, dit Beaumarchais, la phrase un peu masculine pour une dame. Et sa réponse ayant été écrite en entier, on m'interroge à mon tour. Je n'ai aucun reproche à faire à madame, pas même sur la petite humeur qui la domine en ce moment, mais bien des regrets à lui montrer de ne devoir qu'à un procès criminel l'occasion de lui offrir mes premiers hommages. Quant à l'atrocité de mon âme, j'espère lui prouver par la modération de mes réponses et par ma conduite respectueuse que son conseil l'a mal informé sur mon compte. Tremblez-vous d'instiller quelques remarques personnelles, mais croyez-moi, osez. Votre écrit ne pourra que s'en trouver pimenté. Et là encore, suivez Beaumarchais. Je demande pardon au lecteur si mon ton est un peu moins grave ici qu'un tel procès ne semble le comporter. Je ne sais comment il arrive qu'aussitôt qu'une femme est mêlée dans une affaire, l'âme la plus farouche s'amollit et devient moins austère. Un vernis d'égards et de procédés se répand sur les discussions les plus épineuses. Le ton devient moins tranchant, l'aigreur s'atténue, les démentis s'effacent et tel est l'attrait de ce sexe qu'il semblerait qu'on dispute moins avec lui pour éclaircir des faits que pour avoir occasion de s'en approcher. Et surtout, ne craignez pas d'affronter ceux des journalistes qui, n'écoutant que leur sens moral, défendent avec la plus intime conviction le parti qui sert le mieux les intérêts de leur employeur. Le gazetier de ce temps-là s'appelait Marin, dit la bourse, dit aussi le maringouin, ou l'hippopotame. Beaumarchais saisit son tic qui était à tout propos de s'écrier « Quesaco ». « Quesaco » pour « qu'est-ce que c'est ?» Tout Paris se met à résonner de « Quesaco ». À résonner si fort que la modiste de la dauphine Marie-Antoinette en crée une coiffure. Une coiffure qui bientôt fait fureur. Trois plumes portées sur l'arrière de la tête. Je ne regarde, craignant l'impudence, de multiplier ces références. Mais je me permets de renouveler mon humble conseil. Lisez, chers avocats, et relisez ces mémoires contre Gussmann. Vos défenses, ennuyant moins et distrayant plus, triompheront davantage. On dirait une fable d'Ésope retravaillée par La Fontaine. Un jour, il arriva que sa gloire, ayant agacé le roi, un certain animal en fut puni et rogné dans ses ailes. Beaumarchais vient de perdre contre la Blache un premier procès. Un second s'ouvre qu'il ne va pas gagner non plus. La ruine est riche de profondeurs insoupçonnées, on croyait avoir atteint le fond, on peut vous faire encore descendre. Et close l'affaire de l'héritage Paris-Duvernay. Et voici que s'ouvre maintenant celle des fameux mémoires et de leurs grotesques personnages. Le falot conseiller Gussmann, Gabriel, son écervelé d'épouse, le trouble libraire Leget et le tout petit Bertrand Desrolles. Oui, ce samedi 26 février 1774, le tribunal doit rendre sa décision. Beaumarchais avait-il le droit d'écrire des pages d'une telle violence et d'une telle drôlerie? On se doute que la nuit précédente, il n'a guère dormi. Au petit matin, il rejoint le palais de justice. Une foule déjà s'y presse. Les débats entre les 55 magistrats vont durer la journée entière. Seule l'angoisse empêche Beaumarchais de suffoquer de fatigue. Dans les rues voisines, la tension au fil des heures ne cesse de monter. Faudra-t-il faire donner la troupe pour calmer le désordre? Et puis vers le soir, la rumeur se répand. Ça y est, ils ont voté. Mais où sont les juges? Une fois leur décision votée, la prudence leur a recommandé de s'éclipser par une porte dérobée. On finit par apprendre le verdict, qui est accueilli par des cris de colère. Le lecteur d'aujourd'hui ne pourra que goûter la langue de ce temps-là. Mais pour celui qui écoute sa condamnation, le moment n'est pas à l'appréciation du style. Je cite « Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais sera mandé à la chambre pour, étant à genoux y être blâmé, le condamne en outre en 3 livres d'amende envers le roi à prendre sur ses biens, ordonne que les 4 mémoires imprimés en 1773 et 1774 seront lacérés et brûlés au pied du grand escalier du palais par l'exécuteur de la haute justice, comme contenant des expressions et imputations téméraires, scandaleuses et injurieuses à la magistrature en général, à d'aucun de ses membres, et diffamatoires envers divers particuliers. Fait défense au dit Caron de Beaumarchais de faire à l'avenir pareille mémoire, sous peine de punition corporelle, le condamne à aumôner au pain des prisonniers de la conciergerie du palais la somme de 12 livres à prendre sur ses biens. » Fin de citation. Pour faire bonne mesure et manière de ne pas trancher, les époux Gussmann sont eux aussi blâmés et eux aussi condamnés à diverses réparations. Accablé Beaumarchais, mais partout acclamé, il n'a plus rien, ni bien, ni droit. Mais en une seule et folle journée, le séducteur exaspérant, l'homme d'affaires plutôt louche, est devenu un martyr de la liberté, un chevalier blanc en lutte contre l'arbitraire et la corruption, le principal opposant à Maupoux, à sa bande et à sa chambre aux ordres. Chacun veut le voir pour lui témoigner son estime et lui offrir son soutien, même les plus grands seigneurs, à commencer par le prince de Conti. Dangereuse est cette popularité. Le dernier mot n'appartient pas encore à la rue. 15 ans nous séparent encore de la prise de la Bastille. Ce début de révolte inquiète au plus haut niveau de l'État. Et si à Versailles, Beaumarchais compte de fidèles soutiens, notamment auprès de la dauphine Marie-Antoinette, le vieux roi Louis XV se méfie de cet aventurier, trop brillant, trop séduisant, insaisissable, à l'humeur de feu sans doute incontrôlable. La nouvelle lui étant parvenue qu'on allait bientôt l'arrêter, Beaumarchais disparaît. Plus personne ne sait où a bien pu passer la gloire du moment. La fable est une comédie légère, et toute comédie n'est qu'un long apologue. Leur différence est que dans la fable, les animaux ont de l'esprit, et que dans notre comédie, les hommes sont souvent des bêtes. Et qui pisait? Des bêtes méchantes. Préface au mariage de Figaro.
C'était Beaumarchais, un aventurier de la liberté, par Éric Orsenna. À la technique, Alain Joubert. Réalisation Rafik Zénine.